Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Rickside et comme toutes les semaines, pour vous commenter Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE, je suis accompagné de l'incroyable Hank. Comment vas-tu Hank?
Comment allez-vous? Je vérifie, les volumes sont très bons. Ils sont bien meilleurs que cet épisode de Monday Night Raw.
Eh oui,
bonjour.
C'est l'épisode de toutes les douleurs cette semaine.
Ouais, c'est le mois de toutes les douleurs. Enfin, remarque, on est dans un nouveau mois, donc je sais pas, c'est la période de toutes les douleurs.
Ouais, on n'en finit pas de galérer. Alors, bon, vous savez, ici toutes les semaines, d'habitude, on résume, on analyse Monday Night Raw en long, en large et en travers. On va être beaucoup plus bref cette semaine parce qu'on a envie un petit peu de vous parler d'autre chose parce que on va pas se mentir, ça patine sec à Monday Night Raw. Passe pas grand chose de vraiment phénoménal. Donc voilà, on va faire ça vite fait et puis après on va parler un petit peu des news, de l'actualité du catch dans les grandes largeurs, le procès CM Punk, les droits télé de la WWE, les nouvelles arrivées, tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer des questions sur le chat YouTube, sur Twitter, on relayera vos questions, vos réactions.
Ouais.
Et puis voilà, on va discuter catch un peu plus dans la diversité. Mais d'abord, bon, faut quand même s'attaquer à ce Monday Night Raw. C'était le 4, on était le 4 juin, je crois qu'on était à Houston au Texas. On démarre avec Elias. Elias qui chante sa chanson habituelle, il se fait attaquer par Seth Rollins parce qu'il avait attaqué Seth Rollins la semaine dernière. Ensuite, il est attaqué par Jinder Mahal. Roman Reigns vient sauver tout le monde. On a un match. Tag team match playa d'un côté Rollins et Reigns évidemment contre Jinder et Elias. Ça dure très très longtemps et c'est les méchants qui gagnent si je dis pas de bêtises grâce à l'utilisation d'une chaise.
Oui, c'est Elias qui fait une bonne filouterie à Seth Rollins. Mais Seth Rollins qui en prend plein dans la nuque en fait dans le match.
Ouais, voilà, on joue sur la nuque de Seth Rollins parce qu'il s'est fait très mal la semaine dernière quand il est tombé. Après, il y a une altercation un peu plus tard dans l'émission entre Roman Reigns et Jinder Mahal dans les vestiaires. Voilà, bon, parce que c'est pas un match complètement mauvais, mais c'est du déjà vu et revu. Hein.
Non. Et
c'était bien trop long.
C'était long, j'ai pas trop compris. Au début, j'ai cru que j'étais tombé sur la deuxième partie du show quand j'ai commencé le show avec Elias.
Ouais. Oui, ça commence ouais, par Elias comme ça au milieu du ring.
Non, mais on est dans le résumé de toute cette soirée. Le commentaire qu'on va pouvoir faire à chaque fois, c'est on n'en avait rien à faire. Et on n'en a un peu rien à faire de tout ça.
C'est du vu et revu, hein. Donc
il y a rien à raconter là-dedans.
Ouais, rien de bouleversant, rien que du classique, des vieilles recettes. Quelque chose un peu plus novateur. Kurt Hawkins est au milieu du ring. Alors Kurt Hawkins, le problème, c'est que toute son histoire, toute sa storyline, elle se passe à Main Event. Il est toujours sur sa série de défaites. Il est à 199 défaites. Mais ce soir, ça va changer puisqu'il affronte James Harden, un jobber local. Et s'il gagne, c'est tacos pour tout le monde. Hein, il y a une table de tacos et tout le stade qui est étrangement vide un petit peu. Hein, la salle de ce soir.
Ça, c'est étrange.
Ouais, c'est bizarre. Hein. Siège vide. Donc, Kurt Hawkins évidemment est sur le point de gagner hein, face à au jobber. Mais là-dessus, qui c'est qui débarque? C'est Baron Corbin.
Et oui.
Il vient tout sourire, il s'attaque au petit jobber James Harden, il porte le End of Days. Et forcément, c'est la disqualification de Kurt Hawkins, donc il perd le match à cause de Baron Corbin. Alors là, il s'énerve, Hawkins, il va attaquer le Baron, et le Baron lui explose la tête et lui fait manger ses tacos. Le Baron... On apprendra un petit peu plus tard, devient une espèce de conseiller, enfin l'homme de main de Stephanie McMahon aux côtés de Kurt Angle. Il vient conseiller Kurt Angle, prendre les décisions à sa place. C'est un peu le general manager adjoint. Nouvelle position pour le Baron. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Maintenant, t'as pas l'air de te.
Non,
de te transcender.
Non, mais c'est... Enfin... C'est bien pour lui donner un rôle, quoi, mais c'est une nouvelle fois un truc complètement random. Enfin, c'est juste. Ils inventent des choses. Ils pourraient faire des choses tellement plus simples, mais non, c'est mieux d'inventer des lettres venues de Stéphanie pour décider de trucs au hasard. Je sais pas, c'est.
Ouais, on sait pas où ça va mener le baron.
Non,
Surtout
puis.
qu'il a un acting de merde, hein, Baron Corbin. Donc, s'ils lui font faire que des segments backstage, ça va être calamitique du début à la
Tu
fin.
vois, Kurt,
Hein,
moi, j'aurais pas pris la même décision que toi.
C'est vrai. Non, mais il est. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est peut-être temps de faire un face turn avec le baron, ou je sais pas. Puis il faut le faire travailler dans le ring parce qu'il est pas.
Non,
Il est pas
je
encore
pense
au
même pas
point.
c'est une c'est ouais c'est pas une c'est pas un turn dont il a besoin Baron Corbin, c'est de matchs. Il a besoin de faire des matchs, il a besoin de faire beaucoup de matchs. Et toujours été en dents de scie justement, et pour les mecs qui sont en dents de scie, bah le régime ce serait justement qu'ils soient dans des matchs. Alors même si sa personnalité fait qu'il devrait pas être en tag team, moi je le verrais bien justement faire de plus en plus de matchs tag team pour un peu monter, enfin améliorer son in-ring un peu plus, trouver des nouvelles idées de ce qu'il va faire dans le ring, et pas jouer en fait Baron Corbin c'est la brute pour c'est la brute qui va frapper en fait c'est la brute de 12 ans qui va frapper des enfants de 2 mois. C'est ça en fait Baron Corbin en ce
C'est
moment.
la brute de cour d'école,
En
ouais.
fait, il va frapper Noé Rosé. Enfin, il va emmerder Noé Rosé, qui est voilà, jobber moyen, gimmick de danseur. Ensuite, il va frapper Kurt Hawkins, qui est l'ultra jobber, le mort. Enfin bref, là où il y a des gens inutiles, Baron est là pour les écraser un peu plus.
Qu'il retourne violenter dans les Callisto dans les couloirs, nous dit le Koala écarlate.
Voilà.
C'est vrai, ça c'était bien quand il violentait Callisto. Un peu glauque d'ailleurs. Voilà donc, ça c'était pour ce qui concerne le baron. On le reverra un peu plus tard le baron parce qu'il va, il va déjà donner un petit peu ses ordres un peu plus tard dans l'émission.
J'avais peur qu'on fasse plus de 10 minutes sur ce round, mais je pense qu'on va faire plus de 10 minutes.
Plus de 10 minutes? Écoute, oh, ça va aller très vite, hein, parce qu'après on passe aux filles, hein, donc c'est Natalia contre Nia Jax.
Ah ouais, ah non.
Il y a Ronda Rousey au commentaire. Ça se termine par Natalia qui se fait mal au genou, pardon, au genou. Elle se prend un Samoan drop par Nia Jax. Alors après, Nia Jax est inquiète parce que Natalia a mal au genou. Ronda arrive au ring. À partir de là, il y a une séquence vraiment très bizarre où Ronda est au chevet de Natalia. Nia Jax essaye d'aller aussi au chevet de Natalia, mais Ronda lui dit vas-y, casse-toi. Et puis après, on ramène Natalia au vestiaire et un peu plus tard, on les voit encore dans les coulisses. Natalia, elle a mal au genou et puis il y a Nia Jax qui sont là, voilà.
Premier amour, un beau jour. Ça
Voilà.
ne s'oublie pas qu'on sait.
C'était à peu près aussi pénible que quand Hank chante Premier baiser.
La première fois. C'est
Voilà. Natalia est-elle vraiment blessée? Je crois pas. C'est faux.
AB Production. AB Production nous a sponsorisé
Mon Dieu, c'était
segment.
dégueulasse.
Mais non,
Il n'y a rien qui va hein, dans cette séquence-là, il n'y a rien qui va chez
c'est
les
nul
filles.
à chier, ça rabaisse tout le monde, c'est la merde en boîte. J'ai même pas d'inspiration. Allez, on passe à autre chose.
On passe à autre chose. Alors, on ne sait pas, Natalia sera peut-être pas dans le Money in the Bank du coup, hein, parce que il work là.
Ouais.
La sûre quand même.
Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on en a quelque chose à faire?
De Natalia, non, je sais pas pourquoi elle est là. Nia Jax, elle est à chier. Et puis tout ça, c'est pour mettre over Ronda, mais c'est pas avec des
Ouais.
segments comme ça que ça va marcher. Hein.
C'est pas
Bobby Roode.
toi
Oui.
la meilleure amie, c'est moi la meilleure amie. Voilà, c'est le dernier commentaire que j'ai.
Mon Dieu. Bobby Roode est interviewé backstage. Il est tout excité par le Money in the Bank. Il dit qu'il va gagner, que ce sera glorious. Mais ce soir, il doit simplement survivre face à Braun Strowman. Hein. Donc, il s'affronte dans un combat ridicule où Braun Strowman prend le dessus rapidement sur Bobby Roode qui va aller à l'extérieur. Il va sortir une échelle. Il va la poser un peu sur les barrières puis sur le bord du ring, mm-hmm. l'extérieur, quoi, pour faire un petit barrage. Mm-hmm. Et puis après, il va jouer au petit train avec Braun Strowman. Ils vont jouer au loup. Braun Strowman court après Bobby Roode. Hop, passe sous l'échelle. Et là, normalement, Braun Strowman, d'après le plan machiavélique de Bobby Roode, il devrait se manger l'échelle. Mais Braun Strowman, il vit dans la vraie vie quand même, même si c'est un monstre. Donc, il a vu l'échelle hein, depuis un moment. Il s'arrête et il casse l'échelle à coups de poing. Puis après, il tue Bobby Roode avec un Running Power Slam. Voilà, Bobby Roode qui passe vraiment pour un clown là. Alors s'il n'y a pas un heel turn derrière, je crois que c'est vraiment fini pour lui. Voilà. Braun Strowman est très très costaud.
C'est,
hein, il casse
c'est le seul moment qui m'a arraché un sourire de ce que j'ai vu de ce Monday Night Raw. Que d'ailleurs une nouvelle fois pour être totalement transparent, comme on dit, je n'ai pas regardé ce Monday Night Raw de A à Z. J'ai pas regardé les matchs en entier. C'était j'ai regardé le début, fin de match et des trucs comme ça. Mais il y a des trucs que j'ai pas pu regarder en entier. C'était trop pénible.
Ça fait pas des choses à faire quand on est en renégociation de contrat. Hein. Et bonjour à Guillaume qui vient d'arriver sur le chat. Merci Guillaume d'être là. Merci de nous soutenir.
Mais c'est oui et le koala qui nous soutient aussi. Et du coup c'est le seul moment qui m'a arraché un sourire de tout ce que j'ai vu de ce Monday Night Raw, c'est quand Bobby Roode est passé sous l'échelle et a fait « Ah ah !» Et ça m'a pas fait rire parce que la blague était bonne, c'est justement parce que la blague était tellement mauvaise que des moments où je suis public très facile quand la blague est très très mauvaise. Donc du coup là c'était vraiment une blague très très mauvaise. J'ai pas compris pourquoi. Moi, j'aurais été Braun Strowman, je veux dire, la logique aurait voulu que, au lieu de casser l'échelle, tu prends juste l'échelle dans tes mains et tu la balances sur lui.
Ouais, mais c'était un petit peu délicat à faire.
Ça aurait demandé des
rotations. Là, le but, c'est montrer qu'il était costaud au point de casser une échelle, quand même.
Voilà. C'est de semaine après semaine nous confirmer que c'est pas Braun Strowman qui va gagner la ceinture. la mallette. Ouais.
Mais qu'est-ce qui est plus dur à faire, soulever une ambulance ou casser une échelle? Est-ce qu'on régresse pas un petit peu dans la démonstration de force?
Je dirais que casser une échelle en plastique aluminium est plus difficile que faire semblant de soulever une ambulance qui est tirée par des cordes derrière.
C'est vrai.
Mais chacun a son point de vue sur... la construction de ces échelles. Donc voilà.
C'est vrai. Ne rentrons pas dans la controverse de la fabrication des échelles d'AWW.
Sinon, on va en arriver au niveau moléculaire.
C'est ça. Allez, en parlant de niveau moléculaire, c'est l'heure de la bataille royale des tag teams. Yes. D'abord un petit speech de Matt Hardy et Bray Wyatt qui raconte n'importe quoi comme d'habitude. Il y a Rene Young qui est là aussi, apparemment il fait chaud. Ensuite voilà les participants. Alors il y a Axel et Dallas, la B-team, hein, Bo Dallas, Curtis Axel, Fandango et Tyler Breeze, donc Breezango, Ziggler et McIntyre, donc c'est Zimanirio, Dash et Dawson, The Revival, Apollo et Titus, le Titus Worldwide, Slater et Rhino, Connor et Victor, The Ascension. Voilà la gueule de la division tag team. Alors,
Zigoumak.
Zigoumak qui sont éliminés en premier, d'ailleurs. Oui. Alors, ils font les malins au début, ils se mettent de côté, puis ils regardent les autres se battre. Mais finalement, Ziggler se fait virer en premier. Alors, McIntyre est pas content, il casse la gueule de tout le monde. Oui. Mais c'est la pub. On revient après la pub. Là, il y a tout le monde qui se fait éjecter à peu près en même temps. Hein. Ça va très vite. Titus Worldwide, Connor et Victor. Dash et Dawson, le Revival sont éliminés un petit peu après. On fait un peu de retape pour eux en disant qu'ils font un beau travail d'équipe, mais bon, ils sont quand même virés. Et on a donc le tiercé de tête, la B-team, l'enfant d'Ango et Brizango, ils se font virer.
L'important, c'est pas le booking du match, l'important, c'est qu'ils aient tous un moment sur la chaîne YouTube pour dire qu'ils sont toujours la meilleure tag team du monde.
Ouais.
Ils l'ont tous fait! Ils l'ont tous fait!
Ouais. Bah là, il y a du boulot quand même, les gars. Voilà, alors je sais plus ce qui se passe. C'est Slater et Rhino qui se font éliminer à la
Oh,
fin
une
et
confusion à la fin. Ouais, c'est
c'est Bo
Rhino.
Dallas qui gagne.
Ouais.
Ouais, Rhino qui fait
Rhino est le
tomber.
dernier à se faire éliminer.
Ouais, il se fait tomber parce que. Comment? Yves Slater est en train de porter Bo Dallas. Et puis il tape Rhino sans faire exprès qu'il est à l'extérieur du ring et
Ah
puis il
oui, c'est
tombe.
ça.
Voilà, donc victoire. Un peu bordé de nouilles hein, de Bo Dallas, Curtis Axel, mais
Ouais.
qui sont très contents, ils font la fête. Voilà, c'est eux qui iront affronter Deleters of World. Rien d'honteux, mais on est vraiment en bas de tableau là hein, pour la
Bah,
division tag team. Hein,
si c'est
c'est.
ça le match tag team qui est dans le pay-per-view, rien d'honteux.
Ouais, non, je veux dire, les
On
mecs,
va voir ce qui
ils
se
font le
passe dans
taf
le
qu'on leur
ring.
donne, quoi,
Ah
mais.
oui, non mais ce que je veux dire, c'est que le match en lui-même qu'on va voir au pay-per-view, c'est.
Bah non, on est bas là, en
J'espère
plus, ça tient
que ça
trois.
va durer 5 minutes, hein. Peau de banane et c'est fini, hein.
C'est ça. Alors, Ziggler qui se fait éliminer. Voilà, bon, ça, on a l'habitude de Ziggler qui se fait
Ouais.
éliminer, mais quand même, c'était pas la peine de les mettre dans la bataille royale, c'était pour faire ça.
Ouais.
Authors of Pain qui sont pas là, donc on a que des rigolos en fait, hein, en tag team. Et ben, du coup, on n'est pas vraiment hypé, et puis on en a un peu. Voilà, hein, que ce soit un qui gagne ou l'autre, c'est pas grave. Autant ils auraient pu garder Nicolas alors dans toute cette histoire.
Oui, je pense qu'on aurait, on se serait plus amusé.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Bobby Lashley. Il vient répondre à Sami Zayn, mais il dit bah, plutôt que de répondre, viens dans le ring, hein, viens me dire tout ce que tu as à dire devant mon visage. Sami Zayn, lui, il vient pas jusqu'au ring, il va rester dans le public. Il va dire, j'ai mené ma petite enquête sur Bobby Lashley, j'ai été sur une petite arme secrète que j'appelle Instagram. Et donc là, il a vu que Bobby Lashley avait un lien qui l'emmenait les gens qui postent des commentaires sur une page fan club de Lashley sur Internet. Voilà, il dit que Bobby Lashley il est complètement fake. Il est tellement fake qu'il se commence à se demander s'il a vraiment eu trois sœurs dans sa vie, mais surtout il commence à se demander si Bobby Lashley a bien fait l'armée.
On commence à se demander pourquoi on regarde cette émission chaque semaine.
Voilà, à partir de là, on voit qu'on a un fossé quand même entre la culture américaine et la culture française. Parce que ça fonctionne, hein, les gens sont là, il y a des cris USA, USA, il commence à être over, Bobby Lashley, tout ça. On sent que le patriotisme, ça fonctionne. Après, il y a un bon boulot de l'un comme de l'autre, mais alors, c'est vraiment tellement de la merde ce qu'il raconte, c'est vraiment, voilà, c'est mauvais de bout en bout que ben, on se désintéresse de tout ça très
Non mais je veux
vite,
bien, moi
très très vite.
je veux bien le, je veux bien reconnaître semaine après semaine, oui, Sami Zayn il arrive à vendre, enfin il arrive à sortir sans balbutier et sans trembler tous les textes qu'on peut lui donner. Mais c'est de la chiotte en barre, c'est
Ouais, non, ça
juste de la
c'est
merde en
très mal
permanence.
écrit.
Et en plus une semaine ils le font, première semaine ils le font avec un mauvais goût de fou. Enfin, non, c'était la deuxième semaine, donc du coup, avec la séquence au mauvais goût incroyable, tout le monde leur dit, la semaine d'après, ils font une espèce de reconnaissance, semi-reconnaissance du fait que c'était mauvais goût, avec Sami Zayn qui dit, oui, je sais que c'était de mauvais goût, etc. Enfin bref, il prend un peu. Le personnage prend pour la société, enfin prend pour la WWE en fait, au niveau excuse. Mais, et là, il recommence, il relance le truc. Qui était déjà débile et alors moi là c'est moins c'est pas insultant hein, mais c'est juste que c'est nul ou appuyer encore plus sur cette idée alors qu'il n'y avait pas besoin de refaire un segment parlé vous je sais pas moi vous faites une intervention Bobby Lashley qui a un match Sami Zayn qui vient l'emmerder et puis point barre il y a juste besoin il y a pas besoin de plus que ça il y a pas besoin.
Il y a vraiment un très très mauvais scénariste hein, sur cette histoire-là. Alors,
Mais ils veulent
c'est une vieille
absolument faire des
recette.
promos, hein. Ils veulent absolument qu'ils fassent des promos à chaque
Ouais.
fois. Et c'est. C'est pas possible.
Bah, je pense qu'il voit que Sami Zayn s'est délivré comme il faut, donc il se repose sur lui. Il faut montrer un peu Lashley, puis il faut le protéger un petit peu. Voilà, pour que ce soit un peu événementiel, peut-être quand il sera dans le ring, mais. Bah c'est, ça nous intéresse pas, quoi. Il faut être clair là-dessus. C'est vraiment des trop vieilles recettes, ça. Hein. Y a un retour au vieux. Je sais pas comment on peut dire. Hein, quelque chose de. D'assez ancien, d'assez old school, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est un peu réactionnaire et bah ça nous fait pas rêver, hein, les enfants. Si on allait chez les filles, dernier arrêt chez les femmes. Donc il y a un 3 versus 3. Alexa Bliss, Sasha Banks, Ember Moon contre le Riot Squad. Donc Alexa Bliss quitte le match rapidement parce qu'elle s'est fait mal au genou aussi. Donc Sasha Banks et Ember Moon se retrouvent seuls face au Riot Squad. Hein, donc apparemment, Alexa Bliss n'est pas devenue gentille. Donc là-dessus, bah, elles se font malmener. Hein, Alexa Bliss, Sasha Banks, elles sont au bord de la défaite. Là-dessus, il y a la Bayley qui débarque comme une star. Elle casse la gueule à tout le monde. Elle fait le tomber. Les filles gagnent et gentilles. Elles font une célébration dans les vestiaires. Mais... Baron Corbin, hein, vous en a parlé plus tôt, n'est pas content. Il dit non, ça se passe pas comme ça. Bayley, elle était pas dans le match, c'est n'importe quoi. Du coup, il envoie Kurt Angle dire aux filles que le match, en fait, c'est une défaite pour les gentils, disqualification, victoire du Riot Squad. Et là-dessus, Bayley et Sasha, Sasha et Ember Moon font la gueule à Bayley. Alors peut-être que entre Sasha et Bayley, peut-être que ça va se réconcilier, mais peut-être pas, je ne sais pas. Elles étaient copines, mais elles ne le sont plus, ou peut-être pas. Et voilà. C'est dommage, il y avait un petit feu sacré de Bayley, là, quand elle est revenue.
D'accord.
D'accord, voilà.
Non, mais...
C'est chaud, hein.
Comment... Déjà, ça n'est déjà la base du la base du retournement de situation est complètement con parce que c'est forcément une disqualification dès le départ. Sauf que l'arbitre, je sais pas pourquoi, il décide. Bon bah non, mais en fait, je peux pas.
Il a peut-être confondu avec Sabine et Bayley.
Oui,
ça arrive. Hein.
Tellement de points communs.
Il y avait deux sœurs.
Et du coup, à chaque fois à la WWE, on nous dit décision de l'arbitre est finale. C'est pour ça que Roman Reigns n'est pas champion. Mais en fait, non, la décision de l'arbitre, elle n'est pas finale. Parce que si le baron en coulisses, il dit « Moi, je suis pas content, la décision... » Ça s'est pas passé correctement. Voilà. Non, je n'ai rien d'autre à dire.
Nous n'avons rien d'autre à dire là-dessus. Bonjour à Richard qui est arrivé dans le chat.
Et puis alors, Bayley, Sasha, j'ai même plus envie d'en parler. Hein.
Oui, bah, tant qu'elles ne font pas un match l'une contre l'autre, ça ne nous intéresse pas. Le Big Show nous ramène les spéciales olympiques. Hein, ils font la promo, ça a l'air d'aller le Big Show. Hein. Et ensuite, c'est l'heure du main event, Kevin Owens contre Finn Balor, dans un match très très long que j'avoue, j'ai pas regardé en entier. Bon, il y a eu une petite interview de Kevin Owens dans les backstage, voilà. Où aussi on lui a fait dire de la merde, mais qu'il a très bien dit. La fin du match, alors, c'est quelque chose ça aussi. Donc, Kevin Owens se fait disqualifier parce qu'il tape Baylor dans le coin du ring, passé les 5 secondes réglementaires. Là-dessus, il va aller chercher une échelle, il monte sur l'échelle, il va tenter un frog splash, mais en haut de l'échelle, il a peur, il a le vertige. Alors, il descend un petit peu, mais il a encore le vertige. Là-dessus, Baylor finit quand même par se relever. Il pète la gueule de Kevin Owens, il monte sur l'échelle et il fait un... coup de grâce. Et voilà.
Et il retire aussi
Il retire la manette, ouais.
La manette.
Si... Mais c'est pas le bon soir. C'est ça qui est dommage.
Ouais.
Sinon, il aurait gagné. Mais là, non.
Ouais.
Voilà, donc ça, c'était
une bonne bite.
What a geek. Oh
mon dieu. Ah, il est bête. Comme les scénaristes. Comme les scénaristes de cette émission. Il est aussi con. con que les scénaristes. Oh mon dieu.
Voilà, le nouveau visage de la WWE. Un con qui sourit comme ça.
Mais je comprends pas. Tu comprends pas. C'est toute cette émission, c'est elle a été faite au chapeau. Tout a été fait au chapeau dans cette émission. Autant il y a des émissions où il y a des segments où on est énervé, il y a des segments où on trouve ça vraiment du gâchis, etc. Autant là on devient insensible. c'est comme si on nous faisait ouais une émission créée dans le mode univers de 2K. C'est ça en fait.
Ouais, c'est ça.
Randomisation. Match-up aléatoire.
Il n'y a plus aucun buzz sur Raw dans les médias. Il y a plein de médias spécialisés catch qui ont l'air lassés. Si tu prends Vox Catch, ils veulent même plus s'emmerder à faire des reviews de Raw. C'est un peu partout la même histoire.
Qu'est-ce que tu veux faire, hein?
Les podcasts un peu spécialisés aussi. Ça, on préfère parler un petit peu de ce qui se passe ailleurs. Ouais. Voilà, zéro buzz.
Non, mais en plus, c'est quand c'est très mauvais, mais que c'est outrageusement mauvais, enfin, que c'est genre violemment mauvais, on peut en rire, on peut critiquer de façon précise, mais quand c'est juste, ça devient une constante, quoi, parce que c'est juste, c'est mauvais mou, quoi, c'est même pas, ça tente rien, en fait, c'est juste...
Ouais, on est dans la platitude extrême.
Et ça devient récurrent. Là, je vais pas dire qu'on a eu une période aussi longue au dernier pay-per-view, mais ça devient quand même de plus en plus récurrent, les périodes où ils ont rien à faire pendant 2 semaines, 3 semaines, entre 2 pay-per-view. Ils ont, c'est comme si ils avaient vraiment pas de, ils ont pas de vue à long terme.
Ouais. Bah ils ont, là je pense que clairement ils ont fait WrestleMania, ils ont enchaîné sur le Greatest Royal Rumble, donc du coup pas besoin de rivalité puisque le main event c'était un Royal Rumble. T'enchaînes sur un backlash qui a été fait vraiment à la va-vite. Et maintenant c'est Money in the Bank, donc t'as pas besoin de faire de rivalité parce que t'as le Money in the Bank. Voilà, donc là.
Mais justement, t'as tout le temps. C'est ça que je trouve encore plus scandaleux, c'est que Money in the Bank, c'est tellement facile à booker. Enfin, facile dans le sens où c'est mathématique la façon dont tu bookes le Money in the Bank, c'est des qualifications, etc. Il y a pas de. Mais justement, une fois que t'as réglé tout ce côté mathématique des match-up, etc. T'as tout le temps, t'as des semaines pour créer de la tension entre telle personne et telle personne. Y a pas, c'est pas comme si tu devais faire des storylines pour chaque ceinture ou quoi que ce soit, etc. Là, tu sais très bien que les ceintures, elles vont être un peu à l'écart et que c'est vraiment les matchs pour les mallettes qui vont être importantes. Donc du coup, tu peux... Enfin, il y a largement le temps. On regarde une émission de 2h30 chaque semaine. En 2h30, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas le temps de créer un petit peu d'histoire entre les gens, de créer des fins de match qui du coup installent une tension entre telle personne et telle personne. Qu'est-ce qu'on nous a installé ce soir ? On nous a installé Bayley, une tension entre Bayley et Sasha Banks. Oh, c'est nouveau ça. Merci.
Ouais, puis entre Naya et Ronda, il n'y a rien qui se passe en vérité.
Ouais, non mais.
Ils se font des politesses.
C'est n'importe quoi. La semaine dernière, Ronda était à deux doigts de lui casser la gueule. Là, elles sont toutes les deux dans le ring à se disputer pour savoir qui est la meilleure amie de machin. Enfin, de Natalia. Mais.
Voilà. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre.
Au degré zéro. On est au degré zéro de l'excitation. On est au degré zéro de l'excitation, c'est quand même fort sur Money in the Bank. Donc voilà. Ah, si on doit donner une note, moi je donne zéro à ce Raw.
Zéro. zéro de la honte.
Je croyais qu'on pouvait pas faire pire, je crois que j'avais donné un, mais là c'est juste, c'est zéro. C'est zéro, ouais. les matchs étaient vraiment pas très...
Non,
je veux dire, on a déjà tout vu. On a déjà tout vu dans ces matchs, on les a déjà vus. Il n'y a eu aucun finish qui était intéressant, certains qui étaient juste nuls un peu. Rien n'a avancé, personne n'a fait de promo intéressante, personne n'a fait d'interview intéressante. Rien n'est... C'est comme si cet épisode n'existait pas, donc c'est zéro.
C'est ça. Moi, je vais mettre un demi-point parce que j'étais content de voir Kurt Hawkins.
D'accord.
Mais voilà, quand tu, alors quand t'es à Raw et tu paries sur Bo Dallas, Curtis Axel, Bray Wyatt, Matt Hardy qui est quasiment à la retraite, Bobby Lashley, qu'est-ce qu'on a, Bobby Roode, le Baron, c'est pas ces gens-là, Jinder Mahal, même Elias, même s'il est très bon, je veux dire, c'est pas ce mec-là qu'il faut mettre non plus trop en avant. Donc voilà, c'est ça les personnages qui sont mis en avant en ce moment. Ça va être quand même difficile de mettre de la hype sur des trucs comme ça. Hein. On a Kevin Owens
mais
contre Finn Balor.
Mais on les fait tous passer pour des cons, surtout. C'est même pas. Bah, c'est pas forcément parce que c'est des comment qu'ils sont pas forcément fantastiques au micro, etc. Mais c'est surtout qu'on les fait tous passer pour des cons. Bobby Roode, c'est un mec qui danse du cul et qui a peur de ses adversaires et qui passe son temps au micro à dire « je respecte tout le monde ». Baron Corbin, c'est une espèce de...
Bon, il a tellement perdu de match,
Baron
Corbin.
C'est une espèce
Corbin
de que... pantin qui ne fait que massacrer des jobbers. Et le gars, il se dit comme étant indépendant. Et là, dans cet épisode, c'est le sous-fifre de Stephanie McMahon. C'est une espèce de... Ouais, voilà, c'est une espèce de boy... tout pourri qui vient pour faire chier les filles. Genre...
Ouais, en plus, il
non,
va
mais
embêter les
vraiment,
filles, quoi.
il va emmerder les filles, quoi. Ouais, ils passent tous pour des guignols. C'est même pas une question. Moi, j'ai rien contre... Enfin, j'ai rien. Sans compter le personnage qu'ils jouent en ce moment, j'ai rien contre Corbin, j'ai rien contre Roode, etc. Ils peuvent faire des choses très bien. Bobby Roode, il a fait des choses très bien à NXT. Il y a une période où moi, j'ai vraiment aimé Corbin. Justement, vers sa fin de carrière à NXT, où il commençait à être vraiment... à prendre une espèce de gimmick anti-catcher indé qui était sympa. Il y avait de l'idée, mais c'est parce qu'on leur laisse, on les laissait s'exprimer et ils comprenaient à NXT, ils comprenaient qui était leur personnage. Dans le roster principal, personne ne comprend qui est Bobby Roode. Dans le roster principal, les gens se disent, enfin les bookers se disent, c'est une entrée. Voilà, le reste on en a rien à faire. C'est un mec générique, il aime tout le monde parce que c'est un babyface. Et voilà, Baron Corbin, c'est un méchant. Vu qu'on veut pas le pusher en ce moment, c'est genre un méchant, mais en fait qui va perdre assez souvent et qui va juste gagner contre le fond du roster. Donc du coup, vous créez des mecs qui donnent juste pas du tout envie, quoi.
Bah c'est voilà, c'est ça le problème. Donc ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On croise les doigts pour la semaine prochaine que ça aille mieux ou ça va être pénible encore jusqu'à Money in the Bank, je pense.
Non, ça sera de la merde la semaine prochaine. Je veux dire, il y a aucun.
Ouais, il y a aucune lueur d'espoir.
Non mais il y a rien à faire. Tous les matchs sont bookés quasiment. Je sais pas si il reste une qualif la semaine prochaine. Je sais pas.
Non, c'est fini. Tout le monde est.
Donc,
et dans le truc.
Alors que de l'autre côté, même si c'est pas forcément, c'est pas l'Eldorado, SmackDown, au moins ils essayent de faire, de donner un petit peu de sel à leur rivalité, que ce soit entre Naka et AJ Styles ou Bryan et
Big Cass.
Et Big Cass. non mais bon, on en pense qu'on veut, mais au moins ils essaient. Ce que Raw n'essaie pas du tout. J'ai pas l'impression que Raw essaie quoi que ce soit au niveau de ses rivalités. Me dites pas que, je sais pas, Kevin Owens a une haine. Je suis pas du tout convaincu que Kevin Owens a une haine farouche de Finn Balor ou que Finn Balor en veut spécialement à Kevin Owens.
Ça viendra peut-être avec le temps.
Non mais tous les matchs là. Si on cherche, il y a pas de raison pour ces affrontements à part un mec dans les coulisses, enfin qui est en train de dire bah tel contre tel quoi. Il y a rien.
Ouais, complètement aléatoire.
On a fait 40 minutes quand même.
Ouais bah alors. Bon ouais. Bah il nous reste un peu de temps pour parler des news alors, hein,
ouais.
Pour changer un petit peu. Quelles sont les news, vous allez me dire. Bon, la grosse news du moment, c'est le procès CM Punk. contre le docteur en chef de la WWE, Chris Amann. Donc, c'est Chris Amann, c'est le docteur qui porte plainte contre CM Punk pour diffamation, après que CM Punk ait eu des propos très violents envers lui dans le podcast de Colt Cabana. Hein. Tout tourne autour de ce podcast. Donc, le docteur Chris Amann porte plainte pour diffamation. Il demande carrément 4 millions de dollars. 1 million, enfin 1 euro pour chaque auditeur du podcast, et puis un petit peu plus pour voilà, s'il y en a un peu plus, je vous laisse. Et donc bah, la nouvelle est tombée, c'est bien CM Punk qui a gagné le procès, enfin ouais. Gagné, voilà, les charges sont abandonnées, on va dire. Alors on a appris pas mal de trucs sur la fin de carrière de CM Punk à la WWE. Et aussi que, bah, qu'il est peut-être pas si fut-fut qu'il veut bien le raconter, CM Punk, hein, parce que l'affection ouais. Qu'il avait dans le dos, hein, parce que tout autour de cette affection, il avait une espèce de forme qui était dans le bas du dos, hein, comme un gros kyste qui apparaissait. Donc, dans le podcast de Colt Cabana, il avait annoncé que c'était une affection de type staphylocoque.
Ouais.
Mais il s'avère que c'est pas du tout ça. Du moins, la personne qui l'a traité pour l'affection, déjà n'était pas médecin, contrairement à ce que disait CM Punk, et dans sa déposition a dit que c'était pas forcément une affection de type staphylocoque. Bon, reste qu'il y avait quelque chose que, en tout cas, le docteur de la WWE n'a pas vu. Bon, le médecin en question n'était pas médecin. Voilà, donc AJ Lee, hein, elle se fait traiter par des personnes qui ne sont pas forcément des médecins, c'est un peu bizarre. Voilà, il avait un peu embelli les choses, que CM Punk, notamment, bon, il expliquait que la forme protubérante était au niveau de son dos. Bon, c'était plus bas, c'était un petit peu sur ses fesses, mais il n'osait pas l'avouer. Voilà, bon, reste que tout ça, c'est la victoire de CM Punk. On a appris aussi pas mal de choses par rapport au dernier Royal Rumble de CM Punk, où il a été commotionné. C'est là qu'il y a un petit peu du
ouais.
Souci. Parce qu'il s'est... Voilà. Il se prend une clothesline de Kofi Kingston assez tôt dans le match, hein, dans le Rumble. Mais il va rester quand même à peu près 40 minutes dans le Rumble avant qu'il se décide à le sortir. Sachant qu'ils envoient Kane pour le sortir. Et que Kane va après le choc slammer à travers une table. Alors que CM Punk a averti les médecins qu'il était blessé. Donc, on se pose un peu des questions sur le traitement de la WWE de ces catcheurs quand ils sont blessés en plein match. Bon, maintenant c'est un peu tendancieux parce que Punk voulait pas sortir du match.
Ouais, voilà. Non, mais c'est ça que j'ai envie de. Si je dois donner un avis, même s'il y a pas, enfin, sur le procès en lui-même, bon, ça paraissait évident. Enfin, ça paraissait évident. On est aux États-Unis, donc n'importe qui peut gagner. Ouais. C'est les États-Unis. Mais non, s'il y a un truc à retenir, mais bon, on le savait même avant le procès, je pense. Enfin, en écoutant justement le podcast de Colt Cabana et en essayant de lire entre les lignes, c'est surtout que CM Punk, il a tout l'air du mec qui fait. Ouais, c'est dégueulasse. Moi, j'ai dû travailler avec tel truc et telle commotion et tel truc. Sauf que tout le monde dit que CM Punk ne dit jamais rien à personne. Donc, cette espèce de double vérité pour CM Punk. Je pense que c'est ça le problème avec CM Punk. C'est-à-dire que d'un côté, oui. Il a raison de soulever certaines choses, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a des trous enfin, il y a des failles dans lui quand il va attaquer, parce que le procès est toujours pas débuté, le procès que lui a intenté au docteur, je crois. Je sais pas si c'est le même docteur, mais du moins le docteur qui s'était...
Je crois qu'il a rejoint peut-être la loose suite sur les commotions cérébrales.
D'accord. Mais tout ça pour dire que... ça m'étonnerait pas qu'il y ait justement des failles, lui, dans son propre dossier sur ses blessures, du fait que on entend ici et là que CM Punk Il restait très réservé sur voilà sur ses émotions sur et sur ce qu'il pouvait vivre au quotidien. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait aussi caché lui-même des blessures. Enfin, ce qui est aussi une rumeur qu'on entend sur les catcheurs en général, que y en a souvent qui veulent cacher leurs blessures parce qu'ils savent très bien que si c'est pas un truc très très risqué, ils veulent pas être sur le banc pendant 3 semaines et se retrouver sans booking par la suite, quoi.
Ouais. Et puis il avait clairement menacé la WWE de si voilà s'il restait pas assez longtemps dans le Rumble, il comptait rester longtemps lui dans le Rumble, il comptait démissionner quoi. Hein. Il les avait vraiment mis sous pression. Puis de ce qu'il explique dans sa déposition à ce moment donné, donc le docteur vient le voir quand même pendant le match et il lui demande à CM Punk, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Punk explique qu'à ce moment-là, il s'est senti complètement désemparé parce qu'il était complètement sonné hein, par la commotion et qu'il avait visiblement peur pour sa vie. Bon, dit comme ça, je pense que le docteur, il devait avoir la pression de son côté. On lui a dit ne sors pas CM Punk trop tôt parce que sinon il a menacé de se virer. Donc il vient demander à CM Punk qu'est-ce que tu veux faire? Si CM Punk était sonné, il savait pas trop quoi répondre. Puisqu'il avait dans la vision du match de la soirée de rester le plus longtemps possible. Voilà, on sent que c'est peut-être une incompréhension de part et d'autre plutôt qu'une volonté un peu de pourrir CM Punk. Mais bon, visiblement, de toute façon, CM Punk et la WWE, ça fonctionnait pas. Il était malheureux,
Oui,
il voulait quitter la compagnie quoi qu'il arrive. Et puis c'est chaud le métier de catcheur.
Non, mais puis le procès partait d'un. C'était très très léger le reproche qu'il pouvait lui faire en diffamation sur un podcast. Sur un podcast sur Internet. Je sais même pas s'il avait cité son nom particulièrement dans le podcast. S'il avait
Si, si,
dit.
si, si,
S'il a cité son nom.
c'était quand même
D'accord.
personnel un petit peu
Mais
les attaques.
ça reste quand même un podcast de catch sur Internet, quoi. C'est pas comme s'il avait, il avait sorti ses propos sur Fox News ou sur. Donc voilà, c'était quand même très léger pour balancer un
C'est ça. Et
procès, quoi.
puis, alors d'ailleurs même le docteur dans sa petite plaidoirie qu'il a faite, il a expliqué qu'il avait pas eu d'atteinte dans son cabinet au niveau de sa clientèle. À la WWE, les attitudes n'avaient pas changé.
Oui, voilà, il s'est même pas
Il
fait virer,
avait,
ni rien,
voilà,
donc.
c'est en gros ça lui a gâché son Thanksgiving et puis c'est tout quoi.
Oui, c'est ça la
Voilà,
blague,
c'était très
apparemment.
très
C'était.
très 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 léger quoi.
Ouais.
Donc voilà, bah CM Punk qui s'en sort parce que c'était quand même assez chaud, hein, 4 millions de dollars en jeu. Bon, il paraît que c'était légué par la WWE quand même, le fait que le docteur ait fait le procès financé par la WWE. Je pense que tout ça c'était un petit peu pour casser les couilles à CM Punk
Ouais.
avant son match à
Ils essaient de
l'UFC.
lui pomper des dollars jusqu'à ce qu'il soit. Enfin,
Voilà.
je pense pas qu'il en arrive là un jour, mais jusqu'à ce qu'ils se disent j'ai vraiment besoin du pognon de la WWE un de ces jours. Mais oui, ce qu'on n'a pas dit pendant tout ça, c'est qu'il avait une pesée pour l'UFC vendredi.
Ouais, puis il y a un match ce week-end,
Et
hein.
un match, je sais plus si c'est dimanche ou. Non, c'est samedi soir, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'est
Samedi
ça.
soir, il a son second match de MMA de toute sa vie.
Oui, il va se faire démonter.
Possiblement. Par contre, s'il se fait démonter, là, peut-être, ouais, il pourra revenir à, je sais pas, Bellator ou un autre truc, mais il reviendra pas à l'UFC. Hein, s'il se fait démonter, là,
Oui, non, là, c'est clair, c'est fini pour lui.
au bout d'un moment, l'hypocrisie de l'UFC a ses limites. Je pense
Ouais,
qu'ils
non, ils ont
vont.
une crédibilité à garder quand
Ouais,
même à
voilà.
l'UFC. Mais par contre,
Déjà
au
là, c'est très
Bellator,
gentil.
voilà, un petit match contre Ken Shamrock, ça rapporterait du pognon.
Batista. Batista. Ramenez Batista à Bellator.
Batista, il traîne pas avec CM Punk, Batista, c'est une star de Hollywood.
Non, mais. Ou Lashley.
Lashley, voilà.
Puisqu'on n'a pas envie de voir Lashley à Monday Nitro rebalancer le lava. Non, mais. Tant mieux pour. Non mais tant mieux pour Punk parce que pour le coup là le procès c'était n'importe quoi. Enfin le principe était vraiment n'importe quoi. Parce que enfin par contre ce que j'allais dire c'est je suis intéressé de de savoir tous les détails qu'on pourrait avoir s'il y a un vrai procès sur ces blessures qu'il a accumulées, soi-disant que les docteurs ont nié, ou alors, il a sorti un paquet de bobards et en fait, il a caché des choses aussi. Ça serait intéressant de savoir. Et puis surtout, ce serait le premier indice, enfin au moins que ça soit résolu. Alors ça, c'est vraiment mon aspect, enfin mon côté utopiste, mais au moins, une fois que cette affaire sera résolue, on aura le droit d'avoir une poussière d'espoir que qu'il se passe quelque chose au niveau, ne serait-ce qu'au niveau catch, pas au niveau, genre pas qu'il revienne à WWE, mais justement qu'il refasse une apparition. Je lui demande pas de reprendre un emploi du temps, etc. Mais j'aimerais bien, voilà, des apparitions comme ça. Après, c'est aussi compliqué si il veut garder sa street cred de pas devenir un part-timer, mais bon. Bref. Mais on s'en fout des comics qu'il fait, quoi. Il fait des scénarios pour les comics, on s'en fout.
Bon, le peu que j'avais lu, c'était nul. Mais comment dire? Ouais, un petit pige au Japon, hein, à Chris Jericho, ils sont pas mal ça.
Est-ce que, je sais pas si c'est pas dans ta liste de news, mais j'ai vu il y a pas longtemps, il y a Mauro Ranallo qui a sorti un film sur la bipolarité.
C'est
Enfin,
ça.
il a
Enfin, un
sorti un film.
documentaire
Il
qui a
a
été fait. Un documentaire
été
a été fait dessus.
filmé
Voilà.
par HBO, je crois.
Ouais, ça doit être ça. Sous Showtime, je sais pas.
Ou
Une de...
Showtime. Non, c'était Showtime, oui. C'est Showtime parce que justement, il était employé par Showtime il y a longtemps, etc. Mais bref, ça s'appelle The
Rock'n'roll.
Rock'n'Rolla. Ah! Est-ce que tu vas le trouver avant moi?
Pas trop. Non, je sais pas si je l'aurai par là.
Mauro Ranallo. Rock'n'Rolla.
Ouais, donc un documentaire qui parle un peu de son problème de bipolarité, de sa dépression. Voilà, il se fait un peu le porte-étendard des gens bipolaires, dépressifs. Bah pareil, on en apprend un peu plus aussi sur les raisons de son éviction temporaire de la WWE, hein. On avait porté toute la faute sur JBL.
Ah voilà, c'est Bipolar Rock'n'Rolla. Voilà, c'est le nom.
Bah
Si
voilà, on est
vous
pas loin.
le cherchez, le documentaire, il est sorti la semaine dernière, il me semble. Il a fait
Alors quand vous...
beaucoup
Ouais.
d'interviews, donc, et si vous voulez en savoir un peu plus sur le documentaire, allez sur le Sam Roberts, enfin sur la chaîne de Sam Roberts sur YouTube. Il y a une interview avec Mauro Ranallo qui est vachement intéressant.
Ouais. Alors, c'est pas très bon d'être commentateur de SmackDown quand vous êtes bipolaire dépressif parce que vous passez toute la soirée avec Vince McMahon qui vous crie dans les oreilles que vous êtes un connard et qu'il faut bosser un peu mieux que ça. Voilà. Bon, on a
Non
mis
mais
beaucoup
après,
d'infos dessus.
l'info principale de ces interviews, en fait, c'est que toutes les rumeurs sur JBL qui le harcèlerait, etc., et qui l'auraient poussé à partir, en fait, c'était pas ça.
Ouais,
C'était une
pipeau.
c'était ses crises de, enfin, c'était son la pression
Ouais,
et sa
ça a pas dû
bipolarité,
aider, hein,
etc.
d'avoir, comment il
Oui,
s'appelle?
bah, ça, on n'aura jamais de détails là-dessus, j'imagine, mais donc. Ce qui est ouf, c'est que il explique que pendant très longtemps, il n'avait pas vraiment de remède. Il a essayé tout, comme l'opium, qui est, ça a pas l'air, mais c'est des remèdes les plus connus pour la bipolarité, l'opium. Enfin, c'est autorisé du moins aux États-Unis. Je sais pas si c'est autorisé en Europe.
Un peu perplexe sur le résultat aussi,
Et le remède pour lui, le meilleur remède, du coup, il le dit dans l'interview de Sam Roberts, c'est le
la
cannabis.
bière,
Non, le
ah, le
cannabis.
cannabis.
Et du coup, ce qui est ouf, c'est que maintenant, je m'imagine, en fait, toutes les émissions d'NXT qu'il fait, quand il est à 200 à l'heure comme ça en train de péter un câble, en fait, il est démonté. Il est défoncé. Ronaldo.
Wow.
Si vous avez vu, le meilleur exemple, c'est la vidéo qu'ils ont sortie sur la chaîne WWE de TakeOver. Enfin, la chaîne WWE et la vidéo, c'est Mauro Ranallo commente TakeOver New Orleans. Et c'est un gros plan de Mauro Ranallo, les
Oh,
meilleurs
c'est
moments.
exceptionnel.
Et on a vraiment l'impression qu'il pète des câbles, mais à un niveau... C'est pas... non, il fait pas semblant en fait, c'est pas juste, c'est pas juste au
il
micro.
Il vit le truc, hein. C'est impressionnant.
Donc voilà. Mais j'ai pas encore vu le documentaire et ça me paraît vraiment intéressant, mais aussi un peu. On voit qu'il va y avoir des passages assez perturbants parce que il parle de voilà de pensées suicidaires et des trucs comme ça. Mais voilà, très intéressant. Et sachez aussi que, à part Moreau, une autre qui est très connue à la WWE, enfin qui est plus à la WWE, on en parlait juste avant, qui est bipolaire, c'est Edge Lee, qui a fait un bouquin aussi sur la bipolarité, si ça vous intéresse.
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour fumer son petit joke tranquille, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle vite fait des droits de télé de la WWE.
Oui, bah, est-ce que ma question c'est est-ce que maintenant on a les chiffres officiels de Raw? Parce qu'on avait ceux de SmackDown.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit tombé précisément, mais visiblement c'est.
Ce que j'ai compris, c'est pas beaucoup plus haut. Enfin, y a pas une énorme augmentation par rapport à SmackDown au niveau du prix. C'était quoi,
Moi,
$300 000 de plus par an? Un truc comme ça?
Oh, moi j'avais entendu qu'ils avaient triplé le prix, hein.
Ah bon?
Ouais.
Eh bien, écoute, donne tes sources.
toujours le Wrestling Observer.
Ah, d'accord.
Bon, si on se trompe, on fera une correction.
C'est à cause de Dev.
C'est ça. Donc voilà, Raw, re-signé pour le USA Network. Hein.
Ouais.
Trois fois le prix, hein, moi, de ce que j'ai entendu.
D'accord.
Donc
Ouais, mais
forcément.
trois fois l'ancien prix, d'accord, ok.
Oui, voilà.
Ok.
Alors, il se trouve que bah, du coup, c'est très très cher. Donc, pas facile de se payer SmackDown aussi. Donc, SmackDown part sur Fox. Alors, pour faire une comparaison assez simple, USA, c'est un peu M6 et la Fox, c'est un peu TF1. Donc, il va y avoir une exposition bien plus importante pour SmackDown que pour Raw désormais. SmackDown va sûrement devenir le show number one. C'est le vendredi, ils vont bénéficier de toute la promotion de la Fox toute la semaine pour promouvoir le show, donc pendant les grands matchs de football, pendant les grands matchs de basket, etc. Ils viennent sauver la case du vendredi soir, donc c'était tenu par l'UFC, hein, je crois, jusqu'ici. Ils récupèrent aussi des.
Moi, j'avais entendu une histoire comme quoi justement l'UFC c'était le samedi et du coup ça remplace, enfin ça casait le soir où ils avaient pas de live en fait, c'était le vendredi et du coup maintenant ça remplit leur case pour qu'ils aient de lundi au samedi du live tout le temps.
D'accord, ok. Ouais,
Mais
parce que ce sera live, hein.
bon.
Ça reste live, on reste
Ouais.
à 2 heures. Et donc, voilà, le système de promotion de la Fox. Ils vont aussi apparemment avoir des émissions sur FS1, chaîne sœur de Fox, donc pour remplacer tout ce qui était UFC, parce qu'il y avait pas mal de programmes d'UFC sur cette chaîne-là.
Ah, mais ils abandonnent totalement l'UFC, eux?
Ouais.
La
Doucement,
Fox?
je sais plus quel deal ils ont, l'UFC, avec USPN, je crois, et puis des trucs de trucs à la demande.
Ouais.
Voilà, ils n'ont pas fait le meilleur deal de l'année, l'UFC, en comparaison. Ils sont un peu joués avec le feu, bah, ils se sont fait baiser. Et donc, bah, c'est tout gagnant pour la WWE. Alors, on sait, on se plaint de la qualité des shows, on n'était pas content qu'ils aillent en Arabie Saoudite. Mais bah, ils ont mené leur barque plus qu'intelligemment. Il y a du pognon qui va rentrer à flot à tel point que les house shows, le network, bah finalement ça sert plus à rien. C'est dérisoire ce qu'ils vont rentrer comme argent grâce à ça. Maintenant,
Ouais.
bon, il y a déjà des gens qui disent ouais, ils vont fermer le network, il y aura plus d'house show machin. Bon, c'est quand même une vieille
Moi,
maison la
je serais pas contre
WWE.
qu'ils freinent sur les house shows parce que j'entends dans les podcasts américains des mecs qui disent des moments ils peuvent passer trois fois au même endroit en une année.
Ces gens ont bien de la chance, hein.
Oui,
Après, bah c'est pour les
mais
catcheurs,
est-ce
ça
qu'il y a
doit être
vraiment
heureux.
besoin? C'est ça le truc, quoi.
Bah maintenant, ils n'en auront plus besoin, hein.
Bah oui,
Clairement. Hein.
mais
C'est d'un point de vue
ouais.
financier, ce sera plus. Là, maintenant, ça va être
Ce
c'est
serait.
une
Après,
entreprise qui
c'est
fait
de
du programme
l'argent.
télé.
C'est sûr que c'est de l'argent en moins, peut-être pour les catcheurs, quoi. S'ils réduisent le nombre de dates, ça baisse le. Mais
Mais.
après, moi, je trouverais ça plus sain, en tout cas, qu'ils aient un peu moins de dates. De quoi? Et Guillaume qui nous dit les télés sont en perte d'audience, donc ils cherchent vivement des programmes live qui sont les seuls à avoir intérêt en termes d'exclusivité. Bah oui, mais bah c'est ça. Hein,
C'est ça.
De toute façon, c'est l'ère. Enfin, là, on va sortir des généralités, mais on est dans l'ère du replay, de l'ère de l'internet et blabla. Donc du coup, c'est tout ce qui n'est pas live. C'est pas que ça a pas de valeur, mais c'est que ça a pas de valeur sur une télévision en fait. Tu peux le regarder sur un ordinateur, tu peux le regarder sur une tablette, etc. Alors que si, en fait, c'est pas tant le live, c'est l'exclusivité en fait qui est importante. Mais le live en soi est une exclusivité parce que si t'es le seul à diffuser en live, peu importe que la rediffusion soit disponible partout après, t'es le seul à diffuser en live. Donc c'est une exclusivité en soi.
Alors, ça
Donc
a bouleversé le
ouais.
calendrier des catcheurs aussi, hein, parce que normalement il y avait le jour de repos. Enfin, ils ont 2 jours de repos là maintenant. S'ils vont faire un show télé en live le vendredi. Un bout du
Ils
pays,
vont pas
s'ils doivent
avoir
rentrer
de.
chez eux à l'autre bout, ils n'auront pas le
Ils
temps de
vont pas
rentrer, ça
avoir
va
de
être
jours communs
spécial.
en fait, je pense, c'est surtout ça.
Voilà, ouais,
Ils devaient avoir des jours communs, enfin les deux rosters devaient avoir des jours de repos communs, genre le dimanche, et peut-être le samedi après-midi, un truc du genre. Et maintenant, du coup, ils vont avoir des trucs en décalé.
Ouais. Bon, ça
Mais
c'est de la tambouille interne un petit peu,
ouais.
mais voilà, il y a des choses comme ça qui vont changer. Alors. Les pay-per-view deviennent moins rentables que les weekly. Donc il y a de
Mais
fortes
ça.
chances qu'on ait une augmentation de gros matchs, de défense de titre, de changement de titre dans les weekly.
Et ça on le voit à quel point les. Je sais pas si c'est volontaire, mais à quel point la qualité des matchs en weekly dépasse très souvent celle des pay-per-view, quoi. Ces temps-ci.
Il y a le roster qui veut ça. Les main events, effectivement, ils mettent la sauce hein, à Raw ou à SmackDown. Après, je pense qu'il y a eu un gros problème de booking au niveau des pay-per-view parce qu'ils en ont fait trop.
Ouais.
Deux par mois, c'était trop. Là, on l'a vu bah, sur les derniers mois, c'était catastrophique hein, l'enchaînement des pay-per-view. Je suis curieux vraiment de voir ce que ça va donner Money in the Bank parce que du coup, ils ont eu le temps de le travailler. Et donc, s'ils se plantent sur un Money in the Bank, ça va être assez inquiétant pour la suite. Hein. Voilà, donc des weeklies soporifiques, mais en tout cas une WWE qui est en grande grande forme. Donc ne croyez pas tout ce que vous pouvez lire partout, comme quoi l'audimat se casse la gueule. Alors effectivement, la semaine dernière, ils ont fait le pire audimat de tous les temps,
Ah bon?
mais
Avec Raw ou SmackDown?
ouais. Raw a fait son pire audimat, je crois. SmackDown a aussi été très bas. Il s'avère qu'on se rend compte que si Raw est bas, SmackDown est bas. Hein, Raw, c'est la locomotive de SmackDown.
Ouais.
Il y a eu une grosse concurrence. Il y avait un gros match de basket en face, en fait, de la NBA. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu Roman Reigns d'ailleurs dans le show. Je pense qu'il le protège au niveau un peu le produit en histoire d'audimat, parce que des fois, ils ont aussi des explications, des comptes à rendre auprès des exécutifs. C'est toujours bon de dire, voilà, well, là, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il manquait Roman Reigns. Hein, Roman Reigns, c'est un peu notre carte à jouer. Ils sont pas cons, ils savent quand ils vont se planter un soir au niveau de l'audimat, quand ils voient qu'il y a quelque chose en face, quand il y a la concurrence en face. On sait que effectivement, il y a une érosion un peu de l'audimat d'Euro chaque année, de SmackDown, mais c'est dérisoire comparé à ce qui se passe sur USA Network notamment, où ça dégringole de tous les côtés. Hein.
J'avais une petite question. À te suggérer, puisque vous pouvez nous envoyer des questions toute la semaine sur le Twitter et on y répondra dans les podcasts. Si elle s'affiche bien, où est-elle? Hop, je remonte la question. Ouais! Oh putain, je me suis pas gouré. Alors, la question, c'est votre avis. Alors, c'est Diax, hein, bien entendu, notre sponsor
Ah.
officiel. Je ne sais pas où mettre cette question, je vais la mettre en haut à gauche. Votre avis sur la rivalité entre Jax et Rousey? Pourquoi Jax et Rousey sont bookés de cette manière? Alors, c'est la première question. Pourquoi elles sont bookées de cette manière? Du côté de Jax, elle est bookée parce que y a besoin qu'elle soit la méchante pour que Rousey soit la gentille. Et ils savent très bien que Rousey sera plus populaire avec le public que Nia Jax. Donc voilà, c'est ça la raison pour laquelle elle est bookée. Pareil. Pourquoi ils bookent Ronda Rousey comme ça? Je pense qu'ils lui font toujours pas confiance au micro, en fait. Je pense que
Ouais,
c'est un peu
apparemment,
ça.
c'est délicat, elle a du mal à improviser. Hein. Ça s'est senti, là, hein, elle faisait les commentaires. Il y a quand même deux, trois fois où elle dit, on lui pose des questions, elle dit, je sais
Voilà.
pas.
Elle est pas tant, en
C'est un
fait,
peu
elle est pas
difficile,
tant
hein.
bookée que ça parce qu'elle a fait, elle a pas de match. Donc c'est pas vraiment du booking, c'est juste
Ouais, après c'est normal qu'il la
c'est
fasse pas
intéressant.
cacher en weekly, hein. Je pense
Ouais.
qu'il faut garder un petit peu le prestige. Alors il faut savoir, par exemple, sur les négociations télé, quand ils sont arrivés dans les bureaux pour négocier le truc, en gros il y avait une photo de Ronda Rousey avec Triple H sur le dos, une photo de Mania. Hein. S'ils ont réussi leur deal, c'est aussi parce qu'ils ont eu Ronda Rousey. Hein. Ça c'est très
Ouais.
important. Elle a un star power qui est indéniable.
Et puis l'UFC en ce moment, ils ont perdu leurs deux. Enfin, ils ont perdu.
Ils ont plus de stars à l'UFC, hein, c'est.
Leurs deux plus grosses stars, ils les ont quasiment perdues. Ronda Rousey, ils l'ont perdu. Et Conor McGregor, c'est genre, c'est un cas social.
Ouais,
Donc,
voilà,
c'est
c'est
juste.
des cas.
Conor McGregor, il est un peu irrécupérable. Donc voilà, au fur et à mesure,
Toi,
Conor
donc,
McGregor, il doit
pareil.
rendre ses ceintures parce qu'il fait rien en fait avec.
Ouais.
Et je sais pas s'il a encore sa ceinture, une de ses deux ceintures. Je sais qu'il en a rendu une, mais je sais pas s'il a l'autre ceinture. Mais en tout cas,
On a dit, celui qui veut, là, qu'à venir la chercher.
il est dans. Voilà,
Pourtant,
il est. Non, mais
personne ne s'est pointé
il
pour
est
une
dans le
ceinture.
blabla, quoi. Et
Ça.
ça devient un peu trop spectacle. Après, il dit, que pensez-vous des règnes de Jax et Carmella? Je sais pas si je regarde assez SmackDown pour donner un avis sur le règne de Carmella. Ce que j'en ai vu était très fun. Je trouve qu'elle tient très bien. Elle
Ouais,
tient très bien
elle a
son
un
rôle.
personnage qui tient la route. Après, c'est dommage
Ouais, dans le
de pas
ring.
avoir de pas avoir validé Asuka déjà dans un premier temps.
C'est pas faux.
C'est voilà, c'est ça. Elle tombe au mauvais moment. Il y a trop de trucs moyens à côté pour qu'on puisse s'emballer sur ce règne de Carmella qui est pas dégueulasse, mais du moins au niveau de son caractère. Mais sinon, le problème c'est que déjà t'auras jamais un bon match. Et puis, bah, on aurait voulu capitaliser sur Asuka ou alors sur toujours rester sur Charlotte, quoi.
Moi, j'ai le vague espoir que s'il lui offre un règne assez long, qu'elle s'améliore au fur et à mesure et qu'elle nous montre, un peu comme l'a fait Alexa Bliss, qui n'était pas forcément terrible au début de son règne et qui s'est un peu améliorée au fur et à mesure. Après, Carmella part de plus loin, quoi, que Alexa Bliss, je trouve. Mais
Ouais,
bon.
beaucoup plus loin.
Alors, la question qu'il y a, franchement, je pense pas qu'il y a vraiment débat. Rollins peut-il détrôner Lesnar? Non.
Non, non,
Ce sera pas Rollins,
c'est Roman Reigns qui. Enfin,
ce
on sait
sera
pas,
Reigns.
hein. Ils peuvent changer le,
Ouais,
ils
non
peuvent
mais
changer la chose,
c'est-à-dire
mais.
dans la logique dans la logique WWE, j'ai du mal à voir Seth Rollins détrôner Lesnar.
Ouais. Et puis Reigns, c'est toujours le plus gros vendeur de marchandises, hein.
Voilà, je pense que même si c'était pas Reigns, ce serait pas Rollins, mais bon. Voilà, qui nous dit merci et vous assurez toujours, merci Diax.
Oh, bon, ça c'est gentil. Alors là, c'est toi
Merci
qui assures,
beaucoup.
Diak.
Voilà, une nouvelle news dont on a tous besoin. C'est. Alors attends, j'essaye de. Est-ce que je vais avoir le temps de te montrer ce t-shirt? Cette nouveauté sur le WW Shop.
Bon,
Alors.
sinon, pendant que tu fais tes recherches.
Vas-y, vas-y.
Parlons de Cody Rhodes, des Young Bucks, All-In. On n'est pas chez la WWE, mais c'est la concurrence directe qui ont réussi à sold out en quelques minutes leur show à Chicago, alors qu'ils n'ont même pas un match d'annoncé.
Voilà, c'est bon, je peux faire ma parenthèse, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, vous voyez, c'est
Voilà.
magnifique. Il y a un t-shirt de Lana, le
Oh mon
premier
Dieu!
t-shirt de Lana jamais réalisé.
Happy Lana
Happy Lana
Day.
Day, voilà. Vous l'avez vu, disponible pour seulement 195 francs sur www.com. Voilà. Maintenant, on peut parler de catch. Vas-y.
Ouais. Bah, ils ont réussi à flinguer Rousseff, hein, quand même. Ça y est, ils y arrivent à tuer l'hype. Hein. Un bon Happy Lana Day, et puis c'est bon. Ouais, qu'est-ce que je disais? Donc, Cody et les Young Bucks qui ont réussi à booker leur et à faire sold out. 11 000 places, plus de 11 000 places, je crois. Pour ceux qui étaient à Paris au show de la WWE, voilà, on était à peu près à ce niveau-là au niveau du public. Grosse ambiance prévue. Et alors, ce qui est quand même historique, c'est alors personne n'a réussi à faire ça, hein, que ce soit Paul Heyman, que ce soit Jim Cornette, tous les anciens promoteurs de tous les temps, hormis la WCW, période Turner. Apparemment, il y a quelques promotions au Canada, les promotions de Jack Rougeau qui avaient réussi à faire à peu près quelque chose comme ça, mais c'était au Canada. Au Mexique, des fois, ils arrivent à faire des trucs comme ça. Mais c'est la première fois qu'aux États-Unis, quelqu'un d'autre que la WWE réussit à booker un show d'une telle ampleur.
Je pense qu'il y a rarement eu aussi un mouvement aussi important de gens qui rejettent la WWE et qui ont en même temps une alternative.
C'est ça.
Peut-être qu'il y a quelques années, dans la grosse époque Cena Wins, Diva et compagnie, peut-être qu'il y avait autant de personnes, mais ils n'avaient pas vraiment d'alternative. Ou alors, il y avait des alternatives, mais qui étaient beaucoup plus difficiles à regarder. Enfin, à regarder en direct, à suivre la New Japan ou Ring of
Ouais, bah oui,
Honor.
c'est sûr, c'est beaucoup plus accessible que ce que c'était il y a des années, hein,
Donc voilà, maintenant tout est connecté. Et justement, The Elite est le truc qui a relié tout, quoi. Enfin, c'est
Ah ben,
la série qui.
les génies du marketing,
Ouais.
les Young Bucks, hein.
Parce que ça réunit. The Elite, ça peut se regarder sans même regarder les shows. Tu peux le suivre sans vraiment regarder les shows. Après, si tu commences à t'intéresser aux mecs qui sont dans The Elite, tu vas commencer à regarder un peu la New Japan, tu vas commencer à regarder un petit peu la Ring of Honor. Tu vas, enfin, et du coup, je trouve que c'est vraiment le catalyseur qui fait que on arrive à je pense, je suis pas sûr qu'ils arrivent à faire le même chiffre un an après, mais là, pour cette première fois, j'ai moins l'impression que c'est un pay-per-view que c'est une convention de fan, enfin d'un fan club.
Ouais, bah, y a une convention justement
oui, voilà,
qui se fait le même week-end à Chicago, Starcast je crois que ça s'appelle.
Ouais.
Donc ça peut devenir un rendez-vous annuel qui sera un peu le pendant indie de WrestleMania. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce show-là, c'est le premier show qui va être entièrement géré par des catcheurs, par les boys, comme
ouais.
on dit. C'est pas comme la Ring of Honor ou la NJP où il y a des bookers quand même, il y a quand même des exécutifs, il y a quand même des scénaristes derrière. Là, c'est vraiment que les catcheurs, donc Cody et les Young Bucks, qui vont monter un show eux-mêmes. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a des chances que ça ressemble peut-être à une version gigantesque de la Pro Wrestling Guerrilla.
Il n'y a pas encore de. À ma connaissance, je ne sais pas si tu as vu, mais il n'y a pas encore de deal de diffusion.
Ouais. Cody, bah, ils travaillent ça.
Cody a dit que oui, ils avaient eu des contacts, mais que rien n'était fait pour l'instant. C'est fort probable quand même qu'il y ait une diffusion. Au minimum sur, je sais pas, le Fight Network ou un truc du genre.
Ouais, ou Twitch.
Ou Twitch.
Twitch
après, le truc, c'est qu'il ferait
de
pas.
Catch.
Ouais, s'il se base sur les donations, pourquoi pas. Parce que c'est. On va dire qu'il faut, il faut quand même qu'il fasse un peu d'argent.
Impact fait ça, Impact fait ça.
Ouais.
Ouais, s'ils veulent. Bah, après, je pense que. Ouais, c'est du bonus, ça va être du bonus et droit télé parce que je pense qu'ils sont rentrés dans leur thune déjà, quoi. Hein, vu qu'ils ont vendu les places.
On a pas parlé de.
Enfin, j'espère pour eux, sinon c'est qu'ils ont mal goupillé leur truc, quoi.
On n'a pas parlé de ton chouchou Lio Rush qui arrive à 205. Tu vas devoir couvrir 205 là. Tu vas devoir revenir à 205.
Il se passe plein de trucs. Hideo Itami est dans le main event.
Oh merde.
C'est la folie.
Il faut que je regarde ça. Il faut que je rattrape tout ça. Non, mais il faut surtout que je rattrape mes épisodes d'NXT. Là, je me fais honte. Et donc, lundi prochain, je ne sais pas si vous, dans le chat, vous serez à Paris à NXT Live, mais j'en serai avec IRM. Donc,
Et un bonjour à Reality N dans le chat, notre auditeur anglais.
Oui. Qui a beaucoup de courage pour nous écouter en français.
C'est ça. On parlera un peu plus lentement.
Mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Si on va plus loin sur les news, on fera un talking catch. Mais comme on vous dit, on n'a pas énormément de temps en ce moment. Donc voilà. Peut-être prier pour que les Raw soient toujours aussi pourris et qu'on parle de plus en plus de news.
C'est ça. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera mieux.
Peut-être.
Alors. Bon, sachez que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud. On est sur Twitter, c'est CatchUpCDC. On est sur Facebook, c'est Catch-up CDC. On est sur Instagram aussi, c'est Catch-up CDC. Le supplément SmackDown arrive. Donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes alerté dès que c'est sorti. On va faire un petit catch-up spécial sur Dominion de la New Japan Pro Wrestling, normalement demain soir.
Avec l'amiral.
Si tout bien, avec l'amiral. Voilà le programme. Pour ce qui arrive, il y aura sûrement un ex tout seul aussi, avec l'amiral. Voilà. Commentez, posez des questions, mettez des likes, partagez. Hank,
ouais, voilà.
Au lieu de rigoler,
si
merci
vous
d'être venu.
Non, mais si vous posez des questions dans les commentaires, on vous répondra la semaine prochaine. On fera un petit screen, etc. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. On n'a pas beaucoup de commentaires. Généralement, on a des likes, mais pas beaucoup de commentaires. Donc n'hésitez pas. Des bonnes petites questions. Merci d'avoir présenté Ring. Tu vois, c'était pas si pénible que ça. Hein. Il a fallu passer les premières. Première demi-heure, et puis après on avait des choses intéressantes à discuter.
Comme le Ricard. Bon, sur ce, les amis, une bonne semaine, pleine de catch. Ciao, ciao.
Ah, il a pris mon gimmick.
Salut. Tu dis à la semaine prochaine si Dieu le veut. Je peux le dire.
Voilà. Salut.
Ciao, ciao, les loulous. We'll be right back.